Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie.
Merci d'être avec nous et bienvenue dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Mélanie, du lundi au vendredi, pendant 1h30, on décortique ensemble tous les aspects de notre vie quotidienne de façon positive et constructive, comment mieux consommer, mieux s'aimer, mieux gérer notre vie professionnelle ou même nos rapports avec nos enfants.
Vous l'avez compris, Julia et moi, tous les matins, on vous chouchoute et puis on vous donne aussi la parole. D'ailleurs, n'hésitez pas, on attend vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Alors chaque jour, cette émission démarre par une question de notre vie quotidienne et celle d'aujourd'hui, c'est du pratique, c'est du concret. Trouver un appartement, un logement en location, est-ce que c'est toujours forcément une galère?
Et on s'adressera à tous les futurs locataires, qu'ils soient étudiants ou plus avancés en âge ou même en famille. Comment organiser sa recherche? Comment monter le meilleur dossier possible? Et aussi se débrouiller quand il faut une caution. On va tout vous expliquer avec notre invité. Aujourd'hui, c'est Julien Chenet, cofondateur de la start-up Cautionéo, un garant nouvelle génération.
Ensuite, dès 11h45, ce sera notre rubrique Tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs. Et ce matin, Sophie Braffnan va nous parler de bienveillance dans la mode. Et oui, ça existe. Et puis, Maud Ravier sera également de la partie. Elle est l'une de nos expertes beauté. Aujourd'hui, elle va venir en aide à tous ceux qui le subissent, peut-être déjà, le retour des boutons après les. Elle nous donnera ses meilleurs conseils.
Enfin, Julia, dès midi, dans la dernière demi-heure de l'émission consacrée à notre santé, notre bien-être. Aujourd'hui, on va parler gambettes et surtout d'un problème que peuvent connaître les jambes des hommes comme celles des femmes, les varices. On fera le tour de la question et surtout des solutions avec le docteur Ariel Toledano. Il est médecin vasculaire et phlébologue.
Europe 1.
Voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être mieux dans son corps, dans sa tête, une émission positive pour se faire du bien à soi mais aussi aux autres. Et donc Julia, comme tous les matins, on attaque avec une question du jour.
Et oui Mélanie, aujourd'hui une question qui va intéresser beaucoup de monde en cette rentrée, je vous la donne. Trouver un appartement, un logement en location, est-ce que c'est forcément une galère? Alors avant de vous donner tous nos conseils pour faciliter la recherche d'un appart, on accueille celui qui nous facilite, lui, le démarrage de cette émission avec tous les jour, ces enquêtes de terrain sur notre thème du jour, c'est Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Juste avant de commencer, je vais vous demander les trois dernières fiches de paye, deux derniers avis d'imposition, la carte recto verso, l'identité, il faut plein de papiers. Comment récupérer un appart, comment être sûr de l'avoir en location? C'est la question que j'ai essayé de poser dans la rue. J'ai eu un premier très bon conseil.
Pour être sûr de choper un appart, moi ce que je faisais, et ça a marché quasi à tous les coups, c'est que je préparais un dossier, donc vraiment une pochette. Je photocopiais ma carte d'identité, absolument tous les papiers dont ils avaient besoin, enfin le propriétaire a besoin. J'arrive avec ma petite pochette, bien habillée. Quand j'arrive dans la maison, je demande à enlever mes chaussures. Voilà, je montre que je suis précautionneuse et que je suis hyper sérieuse. Et franchement, moi ça a marché quand j'étais étudiante. Donc je sais qu'en ce moment il y a des problèmes pour les logements étudiants. Moi voilà, je vous donne mon conseil, ça marche bien.
Moi je mets mes pantoufles quand j'arrive.
Ça peut marcher. Ah ouais, moi je fais le ménage directement pendant que je suis en train de faire la visite pour se dire oh, il a l'air très propre,
il propre,
va prendre soin de cet appartement. Alors évidemment ce qu'on vient d'entendre c'est génial, mais dans la théorie, dans la pratique, c'est plutôt ça.
Ah bah c'est simple hein. Il faut y aller hyper bien sapé. Le sourire, très poli, ça c'est hyper important. Et puis bon, si vous avez un pote graphiste, il faut un peu truander les fiches de paye, quoi.
Vous l'avez déjà fait?
Oui, ça m'est arrivé, ouais. J'avais un bon pote graphiste et Photoshop, ça a photoshopé, là, pour les fiches de paye.
Vous avez eu l'appart?
J'ai eu l'appart, ouais, très rapidement en plus. Mais bon, c'est pas bien, hein.
C'est pas bien, c'est ce qu'on va retenir. Mais si ça peut permettre d'avoir l'appart, truander un peu les fiches de paye, c'est pas le bon exemple. Après, il y a un homme qui m'a expliqué. Alors vous allez voir, l'explication est pas forcément simple, mais il y a un vrai conseil derrière.
Oui, tout à fait. En fait, souvent, les proprios louent leur appart en saisonnier sur Airbnb pendant l'été. Donc, l'idée, c'est pour les étudiants de se prendre un peu à l'avance, de checker au mois de juin s'il y a les apparts qui sont en location saisonnière et de contacter en demandant pour
l'année,
de le louer après la saison.
Et ça, ça marche?
Oui, c'est pas mal parce que du coup, ils sont sur le dessus de la pile par rapport aux autres qui attendent un peu le dernier moment.
Ah oui, j'en ai vu un à Ibiza. Là,
ah bah voilà, ça peut être pas mal, il faut bosser après là-bas. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc le principe, c'est sympa, c'est de se repérer l'appart avant, de se dire peut-être qu'il sera en location. Pour l'instant, l'été, il est loué à la semaine, mais il peut être joli, il peut me plaire. Ça peut permettre de bien cibler. Après, si justement vous êtes étudiant, on sait que les étudiants galèrent énormément à se loger. Il y a aussi cette technique-là.
Alors moi, je n'ai pas forcément de technique. Par contre, j'ai un de mes potes,
il y a longtemps, avait une super technique. On était en coloc avec trois autres potes et il est passé une soirée. Il nous a dit, vous pouvez m'héberger juste pour la nuit. Et en fait, quatre mois plus tard, eh ben, il était toujours là. Et impossible de s'en débarrasser. D'ailleurs, je crois que j'ai quitté même la coloc et il était toujours en coloc avec mes potes.
Il y est peut-être encore.
Et il y est peut-être encore, je ne sais pas. Donc, Emilio, je te salue au passage. Voilà.
Emilio, la France te salue.
Emilio l'incruste. Quoi,
Emilio l'incruste, ouais. Évidemment. Beau surnom. Et puis, pour terminer, quand même, j'ai demandé, comme chaque jour, à des enfants. Et j'ai trouvé une petite fille. Je lui ai demandé si tu étais propriétaire. Mets-toi dans la peau du propriétaire, qu'est-ce que t'attendrais de tes locataires? Qu'est-ce que tu leur demanderais?
Déjà, je leur demanderais est-ce qu'ils ont des animaux de compagnie pour pas mettre trop le bazar, tout ça, de respecter la maison parce que faut l'entretenir. Oui, je leur et puis j'essaierai de sympathiser. Puis si je vois que ça marche pas trop, je leur dirai ben non, désolé. Et puis si ça marche bien, ben ouais, je leur dis ok, ça marche. Par contre, il faut payer. Gna, je leur dirai le prix et puis on s'arrangera un peu comme ça.
On s'arrangera un peu comme
c'est
ça.
Super. On c'est super. Des propriétaires comme ça,
ouais, c'est dommage que les enfants ont très peu d'appartements à leur nom en France, en tout cas.
Merci beaucoup, Clément Lannou. On vous retrouve bien sûr lundi pour encore plus de terrain, encore plus de bonne humeur.
Évidemment.
Et tout de suite, nous accueillons notre invité. C'est Julien Chenet. Bonjour.
Bonjour Julia.
Vous êtes cofondateur de la start-up Cautionéo, un garant nouvelle génération. Peut-être pour démarrer, un mot rapidement sur ce qu'est votre boîte, justement.
Alors nous, chez Cautionéo, on se porte garant des locataires. Notre métier, c'est tout simple, c'est de leur simplifier l'accès à la location en rassurant le propriétaire. C'est 100% digital et ça se fait en moins de 24 heures. Donc,
Même si le propriétaire est un enfant, ça marche.
Alors ça, j'ai pas encore testé, je vous avoue.
Alors c'est vous qui venez bien habillé à la place des futurs locataires, c'est
en
ça?
En fait, on dirait plutôt qu'on leur évite de mettre en costard-cravate avant de venir au rendez-vous. L'idée, c'est plutôt de mettre toutes les forces dans le dossier.
D'accord.
Le dossier est l'élément indispensable et le garant est un élément qui permet justement de sécuriser cette relation locataire-propriétaire.
Et vous sélectionnez tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères pour venir si quelqu'un demain, si j'ai même pas d'emploi, si je suis en complète reconversion, je peux venir vers vous.
Si alors, je suis roux mais gentil.
Voilà, exactement.
On ne voit pas du tout de qui vous parle.
Voilà, c'est pas du tout moi.
Alors, on a décidé en fait, quand on a créé Cautionéo, de casser un peu les codes de la location. L'idée, c'était de sortir du carcan du CDI. Donc il y a des critères bien évidemment, par contre notre système permet d'intégrer tout type exactement de locataires, donc pas que des CDI hors période d'essai, des CDD, des freelances, des chefs d'entreprise, des intermittents du spectacle, donc des journalistes.
Ils vous
pointent
du doigt là quand ils disent ça, j'ai pas pourquoi.
Je suis en train de trouver un appart en même temps, là c'est bon. Ça.
Et donc en fait il suffit de venir sur le site, de remplir un petit questionnaire et immédiatement et gratuitement, en moins de 3 minutes, vous savez si vous êtes éligible ou non à la garantie. Voilà, donc encore une fois c'est très très simple et... il suffit de se connecter sur
Clément, c'est non, vous êtes trop drôle.
Voilà,
trop drôle,
ça,
je suis désolée.
Ça ne marche pas.
Ça ne passera jamais. Alors, reprenons au début. Quelle est la situation du logement en France, là, en cette rentrée 2021? Est-ce qu'il est facile de trouver un logement en location en ce moment en France?
Alors, en septembre, non. Très clairement, on est sur la plus mauvaise période de l'année. Il faut bien avoir en tête que le marché de la location en France, c'est un marché qui est très tendu, historiquement. On a connu une accalmie suite au Covid. Tout simplement parce que les étudiants ont quitté les logements. On a eu aussi le retour de certains biens qui étaient sur Airbnb, qui sont revenus sur le marché. Malheureusement, la tendance est en train de s'inverser à nouveau et on repart sur un marché très tendu.
Combien de temps il faut en moyenne pour trouver un logement en location en ce moment, on va dire, et peut-être même, si on prend l'année au global, en fait?
Alors, Se Loger avait fait une étude il n'y a pas longtemps. Ils annonçaient 54 jours en moyenne pour un T3, T3 étant le bien le plus recherché en France, pour trouver un appartement. Donc on est vraiment dans le parcours du combattant que vous avez décrit en introduction du sujet.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps et sous son toit ce matin. Si vous ou l'un de vos proches est actuellement à la recherche d'un appart, vous êtes au bon endroit, sur la bonne radio, puisque c'est notre question du jour. Trouver un appartement en location, est-ce que c'est forcément un parcours du combattant? Alors justement, notre coach dans cette voie parfois semée d'embûches qu'est la quête d'un logement, c'est vous, Julien Chenet. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la start-up Cautionéo, le nouveau garant, le garant nouvelle génération. Alors, imaginons, on va le chercher ensemble, ce logement. On commence par quoi? Est-ce que, justement, déjà, chercher ce logement, est-ce que ça doit forcément passer par une agence ou est-ce que, finalement, de particulier à particulier, il y a autant de chances d'en trouver un?
Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a 50% des biens qui sont gérés en direct par des propriétaires et 50% qui sont gérés en agence immobilière.
C'est moite-moite en fait, hein, je pensais
exactement.
Pas.
Ouais, donc très clairement, je pense qu'il est illusoire hein, de vouloir exclure une des deux catégories. Voir, ouais. Exactement. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des cas. Passer par un propriétaire, bien évidemment, c'est gratuit. Passer par une agence a un coût. On peut l'estimer à peu près à un mois de loyer hein, supplémentaire. Mais l'avantage, bien évidemment, c'est que vous êtes accompagné par un professionnel immobilier qui va vous assurer que le logement est décent et bien évidemment vous accompagner sur toutes les démarches techniques type signature du bail, etc.
Clément Lanoux, vous vouliez dire quelque chose.
J'ai une petite technique qui marche dans les grandes villes. Je l'ai expérimentée et ça a fonctionné. C'est traîner dans le quartier qui nous plaît et rencontrer les gardiennes. Ah, si vous avez l'occasion, s'il y a un quartier, une rue qui vous plaît, en discutant, de se dire ben voilà, on sympathise, et de se dire si jamais il y a un appart qui se libère, moi j'aimerais bien habiter là.
Et souvent on est au croissant aux gardiennes.
On peut aller jusque là, mais souvent on est au courant avant même que les annonces soient sur Internet.
Ça c'est vrai. Mais alors est-ce qu'on peut aussi, Julien, passer par les réseaux sociaux, parce que maintenant on peut trouver l'amour sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut trouver facilement un appartement à louer ?
Eh bien oui, il existe aujourd'hui sur Facebook notamment des groupes d'échange en fait, hein, de bons plans. Donc on est typiquement dans ce qui a été évoqué précédemment, où l'idée c'est que le locataire va par exemple prévenir de son départ ou va demander la constitution d'une colocation. Et c'est typiquement le genre de bons plans qui permettent d'être en avant-première sur le bien. Et comme on sait que dans les grandes villes, le bien est rare, plus tôt on est au courant, plus tôt on a de chance, plus on a de chance bien sûr d'avoir le logement.
Faut regarder s'il n'y a pas des pages spéciales gardiennes, hein, peut-être,
ça
des
peut
pages
marcher,
Facebook. Actuellement, c'est quoi les types de logements, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais qui sont clairement les plus recherchés? C'est que le T3, parce que les étudiants, ce n'est pas forcément un T3 qu'ils cherchent. Donc en ce moment, c'est quoi le bien le plus recherché?
Si on parle des étudiants, c'est très clairement le studio, soit en centre-ville, soit en résidence étudiante.
Et c'est ceux-là qui partent le plus vite, en fait,
oui,
hein, aussi.
Tout à fait. Ouais. Et puis pour les familles, on est plutôt effectivement sur le T3. C'est le bien vraiment qui est privilégié par les couples, les familles. Le T3 de 70 mètres carrés avec deux chambres et un grand salon.
C'est mon appart, quoi.
Exactement.
Et ça, c'est le Graal. Mais j'imagine quand même qu'il y a quelques différences de biens les plus recherchés en ville, à Paris par exemple, ou en province. C'est pas la même chose.
Alors, si on raisonne en province, hein, sur toutes les grandes villes de province, au final, on retrouve les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire le centre en priorité ou toutes les zones qui sont très bien desservies par des transports, que ce soit le métro, le tramway, RER, TER. Au final, c'est pareil. L'idée, c'est d'être au plus proche de son lieu de travail pour que ce soit simple le matin et qu'on soit vite de retour à la maison.
Bon, on va prendre un cas concret. Imaginons, j'ai 30 ans, je viens de trouver un boulot, je suis célibataire.
Félicitations.
Non, oui, j'aimerais bien avoir 30 ans.
On se projette,
être célibataire, mais en tout cas, imaginons ce cas concret. Quels sont les critères les plus importants sur lesquels il faut vraiment privilégier la recherche dans cette situation-là, on va dire?
Alors, si j'ai bien compris, vous êtes...
J'ai 30 ans, je suis célibataire et j'ai un emploi. Mais moi, ce n'est pas mon cas.
Et en période d'essai, j'imagine. Ouais. Donc, vous n'êtes pas forcément un des profils les plus recherchés. Donc très clairement, il va falloir bien préparer votre dossier. La clé va être là, hein, c'est d'apporter toute la sécurité que recherche le propriétaire. Donc comme on l'avait entendu, il faut préparer un très bon dossier. Ça, c'est vraiment un très bon conseil. Et puis, bien évidemment, apporter les garanties nécessaires, donc avoir un très bon garant. C'est ce qui va permettre au propriétaire de se projeter sur votre profil et peut-être de le privilégier par rapport à un couple qui pourrait postuler.
Eh bien, moi, je m'appelle Julia Vignali, je vis en couple ou même en famille. Est-ce que ce sont les mêmes critères qu'il faut privilégier ?
Alors pour les familles, là on va pas être sur le même type de bien, hein, et puis vous allez pas justement avoir ce problème hein, du célibat qui fait peur hein, malheureusement. Vous êtes plutôt dans les profils sécurisants pour les propriétaires, donc vous avez certainement plus de chances de trouver votre bien. Pour autant, bien évidemment, il faut avoir un bon dossier, ça reste la clé.
Et alors à mon époque, il y avait ça, je sais pas, est-ce que les propriétaires ont toujours peur des colocations et pourquoi ?
Alors la colocation a un peu évolué dans le regard des gens et notamment des propriétaires parce qu'elle représente un intérêt locatif bien supérieur et dans un contexte de rendement qui baisse, ça devient un produit qui est assez privilégié par les propriétaires.
Pourquoi ? C'est intéressant pour eux ? Plus de garanties
plus
aussi.
Plus de locataires en fait, et donc potentiellement des revenus supérieurs au final. Bien évidemment, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a plus de dégradation et
c'est
peut-être
ça,
des travaux.
Budget,
peut-être,
travaux,
voilà. Mais c'est moins, ça fait moins peur, j'imagine, qu'un couple qui peut se séparer à tout moment. Une coloc, souvent, on anticipe, on se dit, on fait une année, deux années ensemble. Un couple peut se séparer au bout d'une semaine, c'est-à-dire, bon, finalement, il y en a un qui ne peut pas payer. Et, qui...
et puis les enfants en bas âge, est-ce que c'est un atout ou pas vraiment? Parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout envie d'avoir des
enfants en bas âge et des chiens, est-ce que c'est
sans problème.
Alors, les enfants et les animaux sont potentiellement des choses qui peuvent faire peur.
Cachez-les.
Pour des raisons toutes simples, hein, de dégradation, un propriétaire évidemment va forcément penser à ça en se disant bah, à qui je loue mon appartement, est-ce que j'ai, dans quel état je vais le retrouver. Et donc, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, d'un point de vue rationnel, ça peut freiner.
Ouais, si je viens avec mes examens en montrant que je suis ménopausée, peut-être que ça,
peut,
voilà,
être, ça, peut, que ça peut être un atout. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour chercher un logement? Est-ce qu'il y a un moment dans l'année où c'est plus propice?
Alors la location, c'est un marché qui fonctionne toute l'année, hein, il faut être très clair. Toutefois, il y a une saisonnalité quand même assez forte autour de l'été, pour deux raisons. Ben, les étudiants, hein, qui vont rentrer donc, dans leurs écoles et qui forcément cherchent un logement. Et puis il y a aussi la mobilité professionnelle. Pour la même raison, en fait, hein, les parents vont essayer de déménager principalement l'été pour que les enfants soient inscrits à l'école en septembre. Donc c'est, on dit, la plus mauvaise période, entre guillemets. Hein,
si... Ah, vous dites c'est maintenant, ça veut dire qu'on n'a aucune chance là, si je cherche aujourd'hui un appartement, je ne le trouverai pas. Enfin si, il y a quand même un tout petit peu de biens.
Vous allez le trouver, mais il y aura forcément moins de biens disponibles parce que ben, certains étudiants, par exemple, auront anticipé les choses et auront pris leur logement en juillet. Quitte à payer peut-être le mois d'août pour rien, mais ils auront au moins la certitude d'avoir le logement qu'ils veulent bien placé.
Alors vous l'avez dit, avec le nombre de dossiers très importants, particulièrement en septembre, et même depuis le Covid, hein, on nous propose parfois des visites en visio, parce que pour éviter en même temps de faire la queue à 50 dans la rue, est-ce que ça c'est à privilégier ou finalement c'est pas un risque aussi d'avoir une surprise quand on le découvre en vrai cet appart?
Alors moi je dirais que tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez uniquement un emplacement, un studio en tant qu'étudiant, allez-y. Très clairement, vous allez gagner du temps, vous allez peut-être vous éviter un aller-retour en TGV dans la journée pour, juste pour une visite de 15 minutes.
Donc vous pourrez rester en caleçon en plus pendant la visite, c'est parfait. Pas besoin de mettre le costume.
Après, bien évidemment, si vous cherchez un bien coup de cœur, et ben là, il faut effectivement aller visiter, ressentir le quartier et se déplacer.
Alors on y est, hein, c'est le moment de la visite tant attendue. À ce moment-là, à quel détail très important faut-il faire attention et auquel on ne pense pas toujours parfois trop emballé que nous sommes par ce super grand séjour ou cette salle de bain refaite à neuf?
Alors je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps. Vous l'avez mérité cette visite, souvent on l'a dit, c'est un parcours du combattant, donc prenez votre temps. C'est pas toujours simple, mais prenez le temps avant de faire le tour du quartier, voilà, d'écouter. Tout
pendant
simplement,
ce temps, il y a les 12 à la porte qui râlent, voilà. Dépêche-toi.
Vérifiez aussi en amont s'il n'y a pas des restaurants, des bars que vous allez trouver fermés à midi, mais qui seront ouverts le soir et qui feront plein de bruit. Et puis, faites attention à des petits détails dans l'appartement. Un plafond avec une tache d'humidité, c'est typiquement quelque chose qui doit vous alerter et peut-être qui sont des signaux pour lequel il ne faut pas prendre un logement.
On est d'accord, payer pour pouvoir consulter des annonces et visiter un logement, ce n'est pas légal. Hein.
Oui.
Ça arrive aujourd'hui.
C'est complètement illégal. Ça a existé, mais en fait, il faut bien comprendre que finalement, il n'y a pas de contrat qui vous lie avec le propriétaire. Donc, il n'a aucun le droit de vous demander de l'argent pour ce type de service.
Alors, on parlait de la colocation. Enfin, Clément en parlait tout à l'heure. Est-ce que la colocation, c'est toujours fait pour les étudiants ou est-ce que, justement, un nouveau marché s'ouvre et on peut être colocataire alors qu'on est actif et pas forcément étudiant?
La colocation a changé. Effectivement, on voit de plus en plus de profils actifs qui vont dans la colocation. Il y a aussi des nouveaux sites qui sont créés qui font de la colocation intérieure. Intergénérationnel. Donc il y a vraiment des profils très différents. Et puis certaines sociétés ont lancé des systèmes de matching qui permettent aussi d'améliorer, on va dire, la colocation. Parce qu'en colocation, il faut se sentir bien et donc il faut être sûr
que
des personnes avec qui exactement.
Clément, vous habitez.
Oui, je viens de recevoir un message d'un ami qui nous écoute et qui me dit, très important, la pression de l'eau, parce que c'est l'une des seules choses qu'on ne peut pas changer en fait. Des travaux, on peut les faire, mais si vous arrivez avec l'eau, elle est, vous
une
savez,
petite
les douches,
douche avec un tout petit filet.
Et voilà, c'est un truc qu'on ne peut pas. La pression d'eau, on ne peut rien faire, on peut appeler n'importe quelle personne, ça ne fonctionne pas. Donc vérifiez ça, c'est très important apparemment.
Vous avez tout à fait raison. Alors comment on vérifie également qu'on va bien vivre la coloc? Comment on sait qu'on est un bon candidat pour la coloc?
Je pense qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions. Quand vous rentrez le soir après le travail, est-ce que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre salon?
Non. Pas du tout.
Si la réponse est non, très clairement, n'allez pas en colocation.
D'accord. Bon, mais le mari, il faut bien le supporter, mais c'est une coloc. On a signé pour ça.
Et la sous-loc, on peut en parler ou pas? La sous-loc, c'est légal d'ailleurs ou pas?
Alors, la sous-loc, c'est légal. Par contre, il faut recueillir au préalable l'accord du propriétaire. Et ça, c'est très important.
Une sous-loc à l'arrache, c'est pas possible.
Ça n'existe pas. Et même avec l'accord du propriétaire, il faut aussi que le montant du loyer ne dépasse pas le montant du bail initial. Donc voilà. Donc il y a quand même des garde-fous et des sanctions possibles, bien évidemment, si vous ne respectez pas ces critères.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu.
Et c'est Renaud, mais c'est bien fait pour vous. Votre magazine Bien-être, Mieux Vivre, que du positif ici pour vous faire du bien, vous faciliter la vie à vous et à vos proches. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors ce matin, je vous rappelle notre question du jour, Julia. Trouver un appart, est-ce forcément une galère?
Et oui, Mélanie, et pour en parler avec nous et nous donner toutes les astuces pour être le dossier retenu par un propriétaire ou une agence pour cet appart qui vous fait rêver, il est toujours avec nous, c'est Julien Chenet. Vous êtes cofondateur de la start-up Cautionéo. Alors, Julien, le fameux dossier pour candidater pour un bien en location, rappelez-nous d'abord en général ce qu'il doit contenir.
Alors, il y a déjà une liste de pièces exhaustives qui est présente hein, et qui a été constituée par l'État. Donc ça, je le dis un peu en garde-fou quand on vous demande des choses qui vous paraissent un peu surprenantes.
Mensuration, par exemple.
Voilà, non, photo. Voilà, c'est ça.
Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous y référer. Ensuite, ben, les documents sont assez classiques. Hein, donc on va parler des trois dernières fiches de paye, de l'avis d'imposition, de votre pièce d'identité. Et pensez bien qu'il faut dupliquer ces pièces pour votre garant si ce sont, par exemple, vos parents.
Mm-hmm, d'accord. Alors, dans tout ça, soyons honnêtes. Les éléments sur lesquels il ne faut pas se louper, quels sont-ils? Le salaire, c'est quand même très important, puisqu'on sait qu'il faut gagner au moins trois fois, c'est ça, a priori, pour avoir un dossier solide, trois fois le loyer, c'est ça?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de règle qui impose trois fois le loyer. Toutefois, c'est un usage.
C'est ce qu'on entend tout le temps,
exactement.
Ouais, c'est ça.
C'est un usage donc, qui est répandu en France. Donc le propriétaire va demander effectivement au locataire de gagner à minima trois fois le loyer. Alors nous, chez Cautionéo, on considère que cette règle, elle est un petit peu désuète. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas baser uniquement la solvabilité du locataire sur ses revenus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont des revenus annexes, type allocation, ou qui peuvent potentiellement avoir de l'épargne. Et ces choses-là, malheureusement, ne sont pas souvent valorisées. Et c'est bien dommage.
Alors, est-ce qu'on peut dire que chercher un logement, c'est un peu comme chercher un emploi?
Absolument. Wow. Alors, pour moi, effectivement, on est dans la même logique. Finalement, votre dossier, c'est un peu votre CV. Mm-hmm. Donc, il doit être bien préparé, il doit être propre, il doit être classé. Pensez bien que cela va faire gagner du temps au propriétaire et va montrer votre sérieux. Et puis ensuite, il y a la rencontre lors de la visite. De la même manière, il faut qu'il y ait une sorte de feeling réciproque et vous devez le rassurer pour qu'il se projette de vous confier tout simplement son logement.
Clément, et les cautions, est-ce que c'est réglé ou pas? Des fois, on entend un mois de caution, deux mois de caution. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà de deux? Est-ce qu'il y a des règles?
Alors là, vous parlez du dépôt de garantie.
Oui, le dépôt de garantie, pardon. Ouais.
Alors, le dépôt de garantie est encadré. Tout dépend en fait de la typologie du bail, si c'est un bail nu ou bail meublé. Et en fonction, effectivement, on est sur un ou deux mois de dépôt de garantie maximum.
Il n'y a pas de règle. On peut, si le propriétaire est sympa, il nous dit, bon, filez-moi que 500 euros, ça ira.
Alors, si c'est moins, ce n'est pas un problème.
Oui, voilà, il n'y a pas de souci.
On ne peut pas vous demander plus.
Non, mais parfois, on entend que le propriétaire a demandé un an de loyer bloqué sur un compte pour se décider. Mmh. Tout ça, c'est hors la loi?
Tout à fait.
Ah, ouais, bah, très bien.
Bon, c'est bon à savoir. Bon, on passe à ce fameux, justement, dossier de location. On a une question sur le sujet de Rémi au 3921 sur notre répondeur. Rémi cherche un appart en ce moment et il vous demande s'il faut privilégier encore le papier, le dossier papier, ou est-ce que tout se passe aujourd'hui, tout passe finalement en version numérique?
Alors, je dirais que le numérique, déjà, c'est écologique. Donc, faites-le. En plus, il y a de très grandes chances que tous les propriétaires vous demandent la même chose.
Une fois qu'il est fait pour un, il est fait pour
exactement.
Tous.
Exactement. Donc, je conseille, en fait, de constituer le dossier une fois, de faire un très beau PDF. Encore une fois, de le classer. Pensez bien qu'un propriétaire, en moyenne, peut avoir 50, parfois, un candidat pour un logement. Parmi ces 50, si le vôtre est tout propre, bien classé, et vous aurez forcément des points en plus.
Avec des fleurs,
par rapport
enfin,
aux
je sais
autres
pas. Je veux l'original.
Oui, c'est ça. Il faut bien présenter dans tous les sens du terme son dossier, mais aussi sa petite personne, comme on l'a entendu dans le micro-trottoir de Clément. Alors, il y a une question qui revient souvent, vous en aviez parlé, Clément, c'est que beaucoup de locataires falsifient leurs dossiers. Enfin, franchement, moi, j'en connais un paquet.
Alors,
des noms.
Généralement, ils mentent sur quoi? C'est sur le salaire, non?
Sur le salaire, tout à fait.
On a tous un pote infographiste, non?
Bah oui,
enfin,
non, mais c'est ça. Mais ils mentent que sur le
vous
salaire.
Vous avez fait ça, vous, Clément, falsifier un
moi,
dossier
jamais.
De location?
Moi, jamais. J'ai menti sur la ville. J'ai fait croire que j'étais de Grenoble. Je sais pas pourquoi. Ça me faisait marrer.
Mais faites attention, hein, Clément, parce que j'imagine, Julien va nous le confirmer peut-être, que c'est vraiment passible de beaucoup de pépins de faire ce genre de choses, non?
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est
de prison, quand
c'est
même,
de la fraude
non
documentaire, donc potentiellement, oui, effectivement, ça peut aller sur de la prison. Il faut savoir que c'est une pratique qui est assez répandue. Hein. Un locataire sur quatre dit avoir déjà falsifié son dossier. C'est une étude qui est sortie récemment. En tant que propriétaire, faites attention aux justificatifs. Sachez qu'il existe aujourd'hui des outils pour contrôler ces documents.
J'allais vous dire, les propriétaires, ils vérifient vraiment? Parce que ça, la plupart des copains que j'ai entendu dire, on fait ça sans jamais faire attraper. Quoi.
Moins d'un propriétaire sur deux dit contrôler justement la véracité des documents. Il
faut tomber sur le 1 et pas le 2.
Voilà. Il y a un trou dans le système, effectivement, les locataires le savent. Alors, les choses vont quand même changer, hein, comme je le disais, il y a des outils qui commencent à sortir. Nous, chez Cautionéo, par exemple, on utilise un outil de contrôle documentaire. Ça permet, en fait, encore encore une fois, de sécuriser le propriétaire. Et plus le propriétaire est sécurisé, plus il a confiance, plus vous avez de chances d'avoir l'appartement.
Mmh. Ah, d'accord. Alors, autre question de Romain, hein, qui vit en couple et qui cherche un F3, comme beaucoup de gens. Il demande s'il faut nécessairement gagner 3 fois le montant du loyer pour obtenir un logement. Il est tombé sur un proprio qui demandait même 4 fois le loyer. Est-ce que ça, c'est normal ?
En fait, il n'y a pas de règle. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on peut demander 3 fois, 4 fois, 5 fois. En fait, ça va être à la discrétion du propriétaire. Mettez-vous à la place du propriétaire. Quand il achète, il fait un crédit hein, pendant 15 ou 20 ans. Et lui, il va le devoir payer tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc forcément, en fait, il va répercuter un petit peu cette crainte, cette peur sur les profils de locataires. Il veut se sécuriser et donc potentiellement, on peut arriver à ce type de dérive, entre guillemets, où on peut demander 4-5 fois le loyer, malheureusement.
Julien, quand on candidate pour un appart, même si on a un salaire correct, qu'on gagne 3 fois ou 4 fois le loyer, admettons même 5 fois, est-ce que le propriétaire ou l'agence est en droit de me demander quand même un garant, alors que j'ai largement les garanties moi-même ?
Tout à fait. On peut demander 1, voire même 2 garants, hein, potentiellement.
C'est super sécurisé, du coup, pour le propriétaire. Hein,
toujours la même logique. Le garant, en fait, va être là hein, pour potentiellement compenser la défaillance du locataire. Il faut savoir que 75% des impayés, en fait, sont dus à un accident de la vie. Donc, ce n'est pas un locataire qui va faire exprès de ne pas payer, mais c'est quelqu'un qui va, par exemple, perdre son emploi, avoir une maladie. Et donc, le garant va permettre, finalement, de compenser cela et de sécuriser le propriétaire.
C'est pour ça qu'il y a aussi des sociétés privées comme la vôtre qui existent. Mais moi, si je fais appel à vous, ça va me coûter quoi en tant que locataire ?
Alors, si vous passez chez Cautionéo, ça vous coûtera 3,5% du loyer chaque mois. Donc, d'accord. Si je vous donne un exemple, hein, pour un loyer de 700 euros, on va être autour de 20 euros par mois. Ce qui, honnêtement, n'est pas grand-chose au regard de ce qu'on va vous apporter, hein, c'est-à-dire un profil bien meilleur et un dossier qui sera sûrement prioritaire aux yeux des propriétaires.
Clément ?
Et moi, j'aime beaucoup imaginer le pire. Donc, imaginons, je fais appel à vous et je me retrouve dans une situation où je ne peux plus payer mon loyer. Comment ça se passe ?
Alors, dans ce cas-là, nous, on va indemniser le propriétaire hein, de l'impayé. Ça, c'est la garantie qu'on lui apporte. C'est ce qui fait qu'il a accepté votre dossier.
Et après, ils vont vous séquestrer.
Voilà.
Et
évidemment, on va se rapprocher après, de vous, effectivement, pour trouver une solution ensemble. Et on fonctionne de manière amiable dans un premier temps. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous présenter vos difficultés, peut-être vous aider, tout simplement vous accompagner vers votre banque ou voilà, vous apporter des solutions. Et puis, bien évidemment, s'il n'y a pas de solution, on sera obligé d'appliquer les recouvrements classiques. Quoi.
Alors, on a sur Instagram Myriam qui dit que les propriétaires sont devenus fous concernant les garanties exigées aujourd'hui. Elle dit qu'on a l'impression que ça ne fait qu'aller crescendo. Est-ce vraiment une impression ou est-ce parce que je n'ai jamais cherché d'appart avant, en 1990, elle demande.
Alors non, je pense qu'elle a raison. Effectivement, on a une tendance effectivement à chercher plus de sécurité côté propriétaire. Ça s'explique aussi hein, par le fait que les procédures d'impayés sont longues et coûteuses. Et donc, par rapport à ça, ils cherchent encore toujours plus de garanties. Moi, je dirais que la location, c'est une équation. Et dans cette équation, en fait, il faut à la fois que le propriétaire et le locataire se sentent à l'aise. Et c'est tout l'intérêt des garants. Hein. Ce sont des tiers de confiance, finalement, qui viennent apporter ce qui manque pour que tout se passe bien.
Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de loyers impayés en France ? On a des chiffres ou pas ?
On a des chiffres. Aujourd'hui, c'est 2% en France.
Alors c'est énorme en fait. Hein.
Ce que j'allais dire, ça peut paraître faible, mais c'est le problème, ce n'est pas la fréquence, c'est plutôt le montant. Aujourd'hui, un impayé de loyer, ça coûte en moyenne 15 000 euros à un propriétaire. Les procédures juridiques sont longues et coûteuses, donc ça prend entre 18 et 24 mois. Et pendant ce temps-là, lui, il doit payer son crédit. Et donc, encore une fois, pour ne pas se retrouver dans cette situation, il a peut-être acheté cet appartement pour sa retraite, hein, par exemple. Il va vouloir se sécuriser. Et
l'intérêt aussi d'avoir des assurances contre les loyers impayés pour les propriétaires. C'est très rassurant pour eux aussi, non ?
Exactement. C'est la seule solution, en fait, on va dire, de bien se couvrir, d'avoir la certitude d'avoir son loyer chaque mois.
Est-ce qu'on sait si la situation, justement, des loyers impayés s'est aggravée avec la pandémie, le Covid, ou est-ce que, justement, il y a une stabilité, peut-être, de ce côté-là ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que à l'instant T, il n'y a pas plus d'impayés. Toutefois, on sent que côté propriétaire et côté locataire, il y a de l'inquiétude sur le futur. Les locataires le disent assez massivement. Ils ont constaté une baisse de revenus depuis mars 2020.
Il y a des professions plus impactées que d'autres, évidemment.
Voilà. Et côté propriétaire, ils ont aussi une inquiétude. J'avais un chiffre, hein, je crois que c'est 70% des propriétaires. Voilà, c'est une étude OpinionWay. 70% des propriétaires estiment que le nombre de loyers impayés va augmenter dans les prochains mois.
Alors, on le sait, hein, il y a des discriminations au logement en France. Elles concernent quel profil de potentiels locataires en priorité ?
Alors malheureusement, ça existe. Il y a souvent des études qui sont réalisées justement pour sensibiliser sur cette discrimination. Donc c'est un sujet qui progresse. Enfin, en tout cas, quand on voit les chiffres dans la profession immobilière notamment, on voit qu'il y a énormément de sensibilisation. Toutefois, malheureusement, donc, comme je disais, ça existe encore. Les populations les plus discriminées sont les personnes originaires d'Afrique, dans un premier temps. Une personne sur trois originaire d'Afrique se voit refuser une visite, par exemple. Mais aussi les femmes célibataires. Voilà, parce qu'elles ont une situation qui est considérée peut-être plus instable, je ne sais pas.
En tout cas, vous pouvez aider n'importe quel profil hein, dans votre société.
Bah, tout à fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Les sociétés comme les nôtres ont vocation à jouer un rôle de tiers de confiance qui vient réinstaurer de la confiance sur le marché. Et donc, je l'espère qu'ils vont permettre d'aller au-delà de ces discriminations.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre nouveau magazine positif pour vous aider à mieux vivre votre quotidien et avec les autres aussi. À présent Mélanie, on va donner le top départ de la séquence tendance de ce magazine avec deux chroniqueuses en studio avec nous ce matin.
Et oui Julia, elles sont là avec nous. Je me tourne d'abord vers vous Maud Ravier, vous êtes l'une des expertes beauté de cette émission et aujourd'hui vous allez nous aider à combattre un classique, mais un classique qu'on n'aime pas trop, qui revient à chaque rentrée. De quoi allez-vous nous parler ?
On va parler des boutons après le soleil, bien sûr.
Et toutes les astuces pour ne pas les avoir, surtout.
Évidemment.
Merci Maud, on a hâte d'entendre tous vos conseils parce qu'une rentrée boutonneuse, on n'en veut pas.
Non, c'est clair.
Mais avant ça, c'est au tour de Sophie Braffman. Vous allez nous parler de bienveillance dans la mode. J'avoue, dit comme ça, je ne vois pas le rapport. Bonjour Sophie.
Bonjour Julia. Vous avez l'impression que ce n'est pas un univers super bienveillant, la mode ?
Non.
Je suis étonnée. Franchement, je suis étonnée. Les gens sont sympathiques. Anna Wintour souriante. En période de défilé, tout le monde s'éclate. Non, bah écoutez, c'est quand même une grande tendance de fond. Alors certains vont vous dire, oui, la bienveillance, c'est bien, mais c'est un peu nunuche. Moi, je trouve que non, et elle n'a pas échappé à l'univers très impitoyable qu'est la mode, justement.
Ton univers impitoyable.
On pense à des marques comme Ami, qui a été fondée par le très sympathique Alexandre Mathiussier, et qui est représenté par un cœur, et qui, dans son ADN même, porte donc amitié et bienveillance. Ce sont les grandes tendances du moment. On veut du changement dans la mode, et c'est pour maintenant.
Donc, les marques sont plus bienveillantes aujourd'hui qu'avant, hein,
alors,
c'est ça ?
Exactement, elles sont plus bienveillantes. Est-ce que vous vous rappelez de cette tendance en déco qu'on appelait le Hugues ?
Oui, bien sûr, j'adore.
Ah, le Hugues, c'est pas le Hidge ?
Non, c'est une tendance danoise.
J'ai
alors,
un danois
je sais
en
plus.
Régie, on
voilà,
dit Hugues.
On dit donc le Hugues. Eh bien, cette tendance, qui parle donc de bienveillance et pourquoi c'est chez les Danois, parce qu'ils sont très heureux hein, au Danemark, c'est bien connu, eh bien, elle se propage en mode pas une campagne qui ne fasse allusion à bien dans sa vie, bien dans son corps et même bien dans son slip. Oh. Vous connaissez la grande marque, le slip français, forcément.
Oui.
Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, on peut ramener ses caleçons ou ses culottes, alors propres, évidemment, de préférence. La marque préfère, hein, c'est quand même plus agréable. Et on vous donne des bons d'achat. Donc, vous voyez, on va clairement vers un monde meilleur quand on parle de mode aujourd'hui.
C'est bon ça.
Alors, je vais vous proposer quelques petites tendances pour cette rentrée 2021-2022. Pour cet hiver, mesdames, on va s'envelopper dans des grands gilets en maille. Se lever dans d'immenses fausses fourrures léopardisantes, évidemment. Rehausser d'une chapka en fibre de maïs ou de chanvre, parce que la mode bienveillante, c'est ça aussi. C'est une mode totalement écologique. Attention, mesdames, avec la fourrure en overall, c'est-à-dire des pieds à la tête, vous aurez peut-être une allure de Chewbacca.
Mais voilà. Ça a l'air doudouille, en tout cas, et chaleureux, je trouve.
Oui, c'est très chaleureux, effectivement, mais on n'a pas envie quand même de ressembler à Chewbacca, on l'aime beaucoup, mais on a envie de garder une apparence tout à fait humaine. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir cette saison des sequins, du velours, de l'imprimé fleuri et un foulard dans les cheveux pour une allure totalement 70s, les filles. Et ça nous fait totalement fantasmer. On a envie, on est sur le bateau, il fait beau, c'est l'été indien. Je vous le disais, ce fameux foulard dans les cheveux façon Brigitte Bardot à la ferme, hein, qui est une grande tendance qui se décline vraiment actuellement. Alors, pas de ferme sans sabots. Attention, mesdames, vous allez porter cet automne-hiver encore des sabots. Et les sabots, pourquoi ? C'est décalé, c'est rustique, c'est sympathique. On peut les trouver au Sable d'Olonne. Ils sont fabriqués en France avec la marque Youyou. Et quand on pense sabots, on pense à quoi ? À la mélodie de notre enfance.
La petite maison dans la prairie.
Mais ils sont fourrés, les sabots d'hiver, non ?
Alors, vous avez des sabots fourrés, bien sûr. Vous pouvez avoir des sabots fourrés ou des sabots qui ne le sont pas. En tout cas, c'est une des grandes tendances. Et je vous confirme, moi j'en porte régulièrement, c'est très confortable.
Avec chaussettes ou sans chaussettes ?
Avec une chaussette rose, Julia, mais ça on en reparlera. Parce que ça c'est dans l'esthétique moche, on en a déjà parlé, on reviendra là-dessus sur l'esthétique moche.
Sophie, on peut faire même une bonne action en achetant un accessoire de mode.
Oui, parce que vous savez, dans la mode, on est hyper gentil.
Bah oui.
Hein, on est gentil, on est positif, on a envie de faire des bonnes actions et de faire du bien à tout le monde. Alors, bon, trêve de plaisanterie, la bonne nouvelle, c'est qu'il se lance des choses. Vous savez, alors l'imprimé fleuri est tendance. Mais pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas une jolie broche en forme de fleur, non seulement évidemment, elle est sublime. Elles ont été dessinées par le créateur sud-africain TB Magougou, qui va défiler pendant la Fashion Week. Une fleur va vous coûter 15 euros. Vous pouvez les acheter sur lesfleursdetb.fr. Elles sont en exposition bon marché, mais sur le site, c'est valable dans toute la France. Elles ont été dessinées par des femmes en Afrique, créées par TB Magougou. Et tous les bénéfices seront reversés au profit de l'association humanitaire Dessine l'Espoir, qui vient en aide aux populations vulnérables en Afrique australe. Et moi, je me dis, c'est quand même très beau, dans la joie, de la bonne humeur. C'est peut-être ça, la mode positive, cultiver son allure en aidant les autres.
Oh, c'est magnifique.
C'est
très beau.
Franchement, c'est vrai, ça a l'air gentil, la mode.
Ouais,
en fait
ils sont gentils, les gens de la mode.
Pas tous, quand même.
Ne dites pas
ça.
Souvenez-vous d'Anna Wintour, par exemple. Tous, on n'a pas vu sourire depuis 1982.
On parlera des Fashion Week et vous verrez que ça ne se passe pas toujours bien.
Oh, merci beaucoup, Sophie, pour cette chronique. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres tendances mode, fringues. C'est votre spécialité dans Bienfait pour vous. Ah, allez, c'est à vous, Maude Ravier, avec une tendance vous aussi, mais dont ce serait bien passé. Hein. Cette tendance-là, on ne l'aime pas beaucoup. Parce qu'elle revient chaque année à la même période, le retour des boutons.
Oui.
Rien à voir avec les boutons de manchette, les boutons sur le visage.
Hein. Et oui, les boutons d'acné, c'est parce qu'en fait, quand vous vous exposez au soleil, votre peau s'épaissit pour venir protéger le corps. Mais le problème, c'est que les glandes sébacées qui sont en dessous et qui fabriquent, elles, du sébum pour venir nourrir votre peau un petit peu tout au long de la journée, elles sont complètement bloquées par cette couche qui s'épaissit et vous retrouvez avec un excès de sébum qui va bientôt ressortir quand vous revenez de vacances, malheureusement, ça peut vite être la cata.
Bon, justement, on fait quoi quand c'est la catastrophe, Maude ?
Alors, quand c'est la catastrophe, on va déjà commencer par une lotion astringente ou une lotion qui va venir vraiment purifier. Même si vous avez une peau sèche, vous pouvez quand même, pendant cette période-là, le faire. Ça va vous permettre vraiment d'assainir votre peau. Et puis ensuite, vous allez passer sur un gommage. C'est très important. Donc, un gommage une à deux fois par semaine, suivant la sensibilité de votre peau. Mais vous allez plutôt privilégier les gommages enzymatiques, type chimique, acide glycolique. Mais vous allez surtout ne pas faire les gommages mécaniques.
Ah, je ne connais pas la différence. C'est quoi ?
La mécanique,
En fait, le gommage
mécanique... Julia. Vous prenez une roue de voiture, ça roule, c'est mécanique.
Alors, le gommage mécanique va nécessiter une action de pression au niveau de la peau.
Celle avec l'éponge gratte-gratte là, dont vous nous parliez
la semaine dernière, c'est pour le corps. Non,
d'accord.
On va éviter sur le visage. L'action mécanique, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va faire une pression sur la peau et ça risque d'écraser les glandes sébacées qui, elles, contiennent tout ce sébum qui n'a pas pu sortir pendant toute cette exposition au soleil. Et au moment où vous allez appuyer juste pour faire cette action de gommage, eh bien, vous allez, entre guillemets, éclater la glande sébacée et là, il va y avoir une prolifération bactérienne. Les boutons sont assurés. Et bon, je vous le conseille pas. Quoi.
Donc il faut faire un gommage enzymatique.
Donc on va plutôt chercher les gommages enzymatiques qui n'ont absolument aucune action de pression sur les glandes sébacées.
Et c'est quoi par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ce gommage enzymatique ? Il peut y avoir quoi comme produit à l'intérieur ?
Alors généralement ce sont des acides. Moi je vais privilégier, les acides glycoliques. Et en fait c'est un peu comme des Pac-Man, ça vient manger d'une façon naturelle et très superficielle les peaux mortes. Et du coup vous pouvez être sûr que vous avez un teint hyper lumineux, mais les boutons vous les laissez sous la peau.
Mais ça picote un peu, non ?
Oui, il peut y avoir une action effectivement de picot, on va dire, ça peut donner une impression de chauffe. Donc on
ça
en reparlait.
Une sorte de gommage, un peu petit peeling en même temps.
En fait, c'est une action un petit peu moderne qu'on a pu trouver dans le gommage avec des gommages à grains qui avaient justement cette particularité de venir un petit peu rayer la peau. Donc moi, je préfère vraiment les peelings.
Et ça, vous le faites deux fois par semaine ?
Deux fois par semaine.
D'accord.
Tout à fait. Le temps que ça se régule.
On est d'accord que ça touche que le visage, ces petits boutons qui réapparaissent, ils ne vont pas réapparaître sur le corps.
Non. Généralement, c'est uniquement sur le visage. Et si on a des petits boutons au niveau du corps, généralement, c'est qu'on a des problèmes hormonaux. Ça n'a rien à voir.
D'accord. Alors, après avoir bien gommé avec donc un gommage enzymatique et pas mécanique, on a compris. Maude, on va appliquer quel style de crème pour contrer cette attaque de boutons ?
Oui. Alors, toujours pendant cette période-là, donc même sur les peaux sèches, vous pouvez privilégier les crèmes à base de sulfate de zinc. Le sulfate de zinc, c'est vraiment des propriétés purifiantes et assainissantes. Donc, c'est vraiment, ça va limiter la prolifération bactérienne. Donc, on va privilégier ça. Et après, j'ai toujours une petite astuce beauté. La petite crème ou la petite huile essentielle qu'on met dans la trousse de toilette. Là, pour le coup, ça sera les huiles essentielles de tea tree.
Tea
tree, mais on trouve plus facilement tea tree en pharmacie. Et donc, cette huile essentielle est absolument exceptionnelle professionnelle pour tout ce qui est infection, inflammation. Donc, c'est vraiment à avoir dans la trousse de toilette.
En fait, elle a des propriétés antibactériennes. Tout donc, c'est fait. Ça qui va faire, se, faire débarrasser, se débarrasser des boutons.
Antibactérien naturel. Petite astuce aussi, si vous avez tendance à faire des boutons de fièvre, de l'herpès, c'est exceptionnel aussi. Ça vous évite de prendre des médicaments qui sont parfois un peu lourds pour la digestion.
Et cette huile essentielle, on peut la mélanger à notre crème de jour? C'est ce que vous préconisez?
Alors, soit vous la mélangez à la crème de jour, tout à fait, soit vraiment sur un bouton qui est très inflammatoire, vous allez carrément le mettre en local toute la nuit. Exactement. Vous laissez, vous laissez agir. Généralement, en 24-48 heures, c'est fini.
Et si les boutons Maud persistent plusieurs semaines après le retour des vacances, est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner?
Aller chez le dermato, non?
Alors, aussi, en vacances. Non, on va dire que les petits boutons de soleil sont tolérables pendant un mois, grand maximum. Vous allez privilégier une cure d'oligo-aimant telle que de la cure de zinc. Toujours la même action, mais au lieu d'être superficielle sur la peau, là, ça va être à l'intérieur. Donc, on va vraiment avoir une action régulatrice au niveau de la production du sébum. Et évidemment, si ça persiste plus de un ou deux mois, là, il faut aller voir chez le dermatologue. Il va vous donner des conseils un petit peu plus poussés.
Et puis, sinon, il fait beau, effectivement, on ne peut pas repartir en vacances. Comme ça, on la recule encore au mois d'octobre ou novembre.
C'est une très bonne idée. Je ne sais pas, mais moi, je vous invite vraiment à retourner au soleil, en fait.
Voilà, pour effacer tous les boutons. Merci beaucoup, Maud, pour tous ces conseils. Merci également à vous Sophie Braffman. On vous retrouve toutes les deux la semaine prochaine. En attendant Mélanie, place à la santé dans Bienfait pour vous.
Et oui Julia, dans notre grand dossier santé aujourd'hui, on va prendre soin de nos jambes et faire un focus plus particulièrement sur les varices, un problème veineux qui peut toucher, Julia, attention, les hommes comme les femmes. Le docteur Ariel Toledano sera avec nous pour en parler. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, Bienfait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30, une demi-heure consacrée à votre santé, votre bien-être. Que du positif dans cette émission, Mélanie, qu'on vous livre sur un plateau.
Et c'est exactement ça, Julia. Alors, je le rappelle, dans cette demi-heure davantage ciblée sur notre santé, nous sommes tous les jours dès midi accompagnés d'un invité, un expert. Aujourd'hui, c'est le docteur Ariel Toledano. Il est médecin vasculaire et phlébologue et il vient prendre soin de nos jambes aujourd'hui. Il va tout nous dire ce qu'il faut savoir sur les varices, comment les éviter éventuellement et surtout comment les soigner.
Et puis, à 12h20, comme tous les jours à la fin de cette émission, il y aura notre chronique Vite fait, très bien fait, notre petit bonus pour prendre toujours plus soin de vous jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Le Breton, notre spécialiste livre. C'est votre première aujourd'hui, Nathalie, et je crois que vous avez pensé à tous les parents et les enfants qui ne sont pas encore hyper détendus niveau rentrée scolaire.
Exactement, j'ai des livres plein ma malle et on va parler école, rentrée. Vous savez, quand ça pleurniche un petit peu trop longuement encore.
Et là, vous serez là pour nous aider, Nathalie.
Merci, Nathalie. On a hâte de vous entendre pour ces premiers conseils lecture dans Bienfait pour vous. Et oui, les livres nous font du bien et on vous en parle ici. Mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Eh bien voilà, c'est parti pour une demi-heure consacrée à votre santé, votre bien-être. On dit souvent avec Mélanie que chaque matin nous faisons tout pour que vous soyez bien dans vos baskets. Eh bien aujourd'hui, ça prend tout son sens puisque on va parler de la santé de nos jambes avec vous, docteur Ariel Toledano. Bonjour.
Bonjour.
Docteur Toledano, vous êtes médecin vasculaire et phlébologue à Paris. Alors avec vous, docteur, aujourd'hui, on parle des varices. Plus précisément, et justement, on va reprendre peut-être du début quand même parce que les varices, tout le monde a une idée à peu près de ce que c'est. Mais c'est quoi concrètement et physiologiquement une varice? Finalement.
Moi, je dirais, je ne parlerai pas spécifiquement des varices, je parlerai de l'insuffisance veineuse superficielle. C'est en fait une fragilité des veines, avec des difficultés pour les veines de remonter le sang vers le cœur, qui peut se manifester par des varices, c'est-à-dire des grosses veines dilatées, ou par des, simplement des petites varicosités, c'est des petites veines encore plus fines que celles que l'on voit quand on a des varices, et qui donnent un aspect un peu violacé à la peau, un peu marbré à la peau. Donc voilà, c'est varices, mais aussi varicosités.
En fait, c'est un symptôme, hein, c'est ça?
La varice, c'est un symptôme, vous avez raison. C'est pour ça que nous, les médecins, on parle plutôt de l'insuffisance veineuse superficielle, qui est en fait cette fragilité des veines, cette fragilité du retour veineux, cette difficulté pour le sang de remonter vers le cœur.
Justement, c'est quoi le retour veineux? Expliquez-nous comment
Alors,
ça
voilà,
fonctionne.
En fait, c'est très simple. En fait, tout est centré autour du cœur. Le cœur, c'est vraiment la pompe qui centralise toute la circulation. Les artères partent du cœur vers les jambes, vers les organes. Et dans les veines, le sang remonte, donc quand c'est au niveau des jambes, et donc doit combattre la pesanteur, et donc a des difficultés à remonter le sang. Et on est équipé de petites valvules dans les veines qui empêche le sang, une fois qu'il est remonté, de redescendre. Et donc, c'est ces petites valvules qui, malheureusement, ne fonctionnent pas très bien, qui fait que le sang stagne, provoque des douleurs, provoque des œdèmes, provoque ces petites veines qui claquent au niveau des jambes. Donc,
c'est
voilà,
quand il y a un
traiter.
Mauvais retour veineux.
Voilà,
hein,
c'est ça. On dit le mauvais retour veineux qui se manifeste parmi les symptômes. Les varices sont un symptôme, mais on peut avoir simplement des douleurs.
Des jambes lourdes,
très
lourdes.
On peut avoir des jambes
ouais.
lourdes, on peut avoir des picotements, des paresthésies, on appelle ça. On peut avoir aussi des œdèmes, c'est-à-dire la sensation d'avoir les jambes qui gonflent. Mm-hmm. Donc, différents symptômes peuvent donner, en tout cas peuvent suspecter une insuffisance veineuse. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut ne pas hésiter à en parler à son médecin.
Alors, est-ce que les femmes sont réellement plus touchées que les hommes ?
Oui, les femmes sont plus touchées que les hommes pour plusieurs raisons, parce que ces maladies qu'on appelle insuffisance veineuse superficielle sont très liées aux problèmes hormonaux, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque veine, il y a des récepteurs aux hormones, et ces récepteurs sont très sensibles à la moindre variation hormonale.
Ah,
donc les femmes sont plus touchées, alors on dit que quasiment une femme sur deux, 17 millions quand même de Français et de Françaises qui sont touchés par cette maladie, et une femme sur deux et peut-être un homme sur quatre à peu près. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la puberté, les contraceptions, les grossesses successives, toutes ces modifications sur le plan hormonal sensibilisent un peu plus les veines et sont des facteurs aggravants de l'insuffisance veineuse.
Mais on s'adresse quand même à tout le monde aujourd'hui dans cette émission, parce
tout
que moi
fait.
Je connais un auditeur
fait.
Fidèle, un restaurateur qui nous qui écoute quand le service est terminé en replay, qui me dit souvent qu'il a des problèmes de jambes.
C'est
donc c'est possible, il y a des métiers comme ça aussi,
tout
ces messieurs peut-être qui vont les amener à nous rejoindre dans
fait,
ce risque-là.
Ouais. Ouais, vous avez parfaitement raison, mais en fait c'est vrai que les femmes vont venir nous consulter très tôt parce que ça fait partie de la silhouette de leurs jambes. D'avoir
celui-là
des jambes
ça fait 10 ans qu'il a voilà. ça, il ne l'a jamais consulté.
Voilà, alors lui il ne viendra consulter que quand son épouse va lui dire va consulter.
Ouais, elle
que
lui dit
mal,
pourtant,
voilà,
mais...
Ouais.
Et est-ce qu'on peut parler un peu des facteurs de risque des varices ? Alors, l'âge, hein, j'imagine, mais il y en a d'autres.
Alors, vous avez l'âge, vous avez raison. Alors, il y a un chiffre incroyable, c'est 20% des hommes et des femmes de 20 ans ont des problèmes veineux, mm-hmm. et à 70 ans, 70%.
Ah bah
donc,
voilà.
C'est assez... ce qui prouve bien que plus on prend de l'âge, et plus le risque est quand même très important. Alors, le fait d'être une femme est un risque supérieur, évidemment, on vient de le dire.
Donc, d'une femme
puis,
âgée, encore plus.
Alors, oui.
voilà.
Tout à fait. Après, le boulot. Alors,
une
vous
femme
avez parlé...
âgée, hôtesse de l'air.
Voilà, alors là, c'est terrible.
Ouais.
Donc, vous avez parlé des restaurateurs, vous avez parlé aussi des personnes qui travaillent en position debout. Alors, on parle souvent de la position debout, c'est-à-dire une vendeuse qui est tout le temps debout, à piétiner, mais la position assise immobile, elle est aussi terrible pour les jambes. Donc, les caissières souffrent également de ce genre de problème. Vous avez aussi certains métiers à risque, hein, donc on parlait ça de l'hôtesse de l'air, ou des gens qui prennent des charges lourdes également. Voilà un peu tous les facteurs qui peuvent aggraver. Et puis le facteur le plus important, c'est l'hérédité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez malheureusement un parent
ouais.
qui a des problèmes veineux, ben, vous avez des risques d'en avoir.
Et docteur, ouais. On aime mieux que prévenir que guérir dans cette émission, clairement.
C'est ce qu'il faut.
Est-ce qu'on peut éviter l'apparition des varices et donc de ces problèmes veineux au niveau des jambes, même s'il y en a déjà dans ma famille? Est-ce que je peux faire quelque chose?
Ah mais tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux dire, moi, je vous donne un simple exemple. Une des complications majeures des varices, c'est l'apparition d'un ce qu'on appelle un ulcère veineux, c'est-à-dire une plaie qui apparaît au niveau des chevilles et qui malheureusement met un temps fou à cicatriser. Ce genre de choses qui était très fréquent dans notre consultation, dans ma discipline, ben, moi j'en vois plus réellement beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment de plus en plus rare. Pourquoi ? Parce que les gens viennent consulter très tôt et plus vous prenez en charge tôt vos problèmes, moins vous avez de risques de complications. Il faut bien dire une chose, et ça c'est quand même clair pour nos auditeurs, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'à un moment donné on a des symptômes qu'on a pas mal, que les choses ne continuent pas à évoluer. Mmh. La douleur n'est pas un facteur fondamental dans la prise en charge, dans l'évolution des choses. On peut par exemple avoir des grosses varices, qui veut dire que quand même on a une maladie veineuse très évoluée, et ne pas souffrir du tout. Ce n'est pas le seul indice qui nous permet de savoir dans quel état on se trouve.
Enfin, il y a heureusement des traitements qui visent à les détruire, les varices, notamment ce qu'on appelle les scléroses, enfin la sclérose des varices, grâce à une injection à l'intérieur des veines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Tout à fait. Alors en fait, vous savez, on a, pour bien faire comprendre à nos auditeurs comment ça fonctionne, il faut savoir qu'on ne sait pas réparer une veine. Une veine qui est malade, qui ne fonctionne pas, on ne sait pas la réparer. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
On la jette.
Voilà, exactement, c'est un peu ça. On fait disparaître ce segment veineux. Mm-hmm. Pour que les gens comprennent pourquoi on fait disparaître ce segment veineux en injectant un produit qui va rétracter la veine, qui va la scléroser. En fait, il faut avoir cette notion, et ça j'aurais dû l'expliquer un peu avant, c'est-à-dire qu'on a deux types de veines. On a des veines superficielles dans le corps, on a des veines profondes. Les veines superficielles, c'est ce qu'on voit à travers la peau, au niveau des jambes, ces veines ne sont pas fondamentales. Elles constituent 2% de l'ensemble du retour veineux. Les veines les plus importantes, c'est les veines profondes. Le problème, c'est que les veines superficielles et profondes sont en connexion. C'est-à-dire que quand on va vous traiter, on va vous scléroser une veine qui est superficielle, ben, ce n'est pas grave parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prévient le risque qu'il y ait une atteinte de la voie profonde. Et notre job en tant que médecin vasculaire, c'est de tout faire pour que la voie profonde ne soit jamais lésée. Mmh. Et c'est ça ce qui est fondamental. Donc quand on vous supprime une veine par une sclérose ou par des techniques de laser ou par des techniques chirurgicales...
J'allais vous dire, c'est plus ça qu'ils utilisent aujourd'hui. Hein. Oui. C'est l'endovasculaire, le laser,
tout
la radiofréquence. C'est comme ça qu'on traite aujourd'hui les varices.
On rentre plutôt dans une ère où on va faire moins de chirurgie, plus d'actes techniques qu'on appelle de l'endovéineux, qui consiste à injecter des produits pour rétracter la veine ou à envoyer des systèmes de laser ou de radiofréquence.
C'est moins invasif, en fait. Hein. Exactement, on n'est pas hospitalisé, forcément.
Exactement. De toute façon, aujourd'hui, globalement, même la chirurgie a tellement évolué qu'on n'hospitalise plus les gens. C'est une technique, ce sont des techniques qui se font totalement en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous êtes en fin de matinée chez vous, à la maison.
C'est pas mal ça. Donc si j'ai bien compris, je peux me faire scléroser mes varices, mais je peux aussi faire le laser. Ou est-ce que je peux faire que la sclérose ou que le laser ?
Alors, il y a deux types de lasers. Il y a ce qu'on appelle un laser vasculaire cutané que l'on fait par exemple en cabinet pour traiter des petites veines, des varicosités. Donc ça se fait tout à fait en complément d'une sclérose. Et il y a le laser endovéineux qui consiste à faire, ce qui est une chirurgie, une forme de chirurgie, c'est-à-dire qui se fait en clinique, dans un milieu hospitalier où on va faire une petite incision avec une petite anesthésie locale. On va rentrer un cathéter muni de ce laser et on va occlure la veine, cette fois par le système laser.
Donc ouais. Combien de temps à récupérer? Très rapidement, ça va?
En général, la récupération est assez vite puisqu'on sort le jour même de la clinique ou de l'hôpital.
Et on peut aller travailler
On reprend très vite son activité, il n'y a quasiment pas d'arrêt de travail. Avec une reprise complète des activités sportives, parce que le sport, il faut en parler,
ça. C'est important, bien sûr.
Dans la prévention, puisque nous sommes dans une émission de prévention, bouger évite d'avoir des varices. Plus on bouge, moins on est sédentaire, moins on aura de varices.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio avec Julia Vignali. Nous sommes dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et surtout aux problèmes de jambes, de varices, problèmes assez fréquents dans la population pour de multiples raisons. Mais ici, Julia, on ne propose que du soulagement, que des solutions.
Et oui, elles sont nombreuses, on l'a vu avec le docteur Ariel Toledano qui est toujours à nos côtés dans ce studio. Docteur Toledano, alors je rappelle que vous êtes médecin vasculaire et phlébologue et donc à présent, on va passer aux questions de nos auditeurs. On va commencer par celle de Jennifer, qui a 32 ans. Elle nous a envoyé un message assez long sur la page Facebook d'Europe 1. Je vous le résume. Elle demande s'il y a un âge plus particulier où on a des varices, où on peut être touché à n'importe quel âge. Parce que là, elle a un truc derrière le mollet qui l'inquiète, comme des petites veines éclatées. Et elle demande si c'est possible d'avoir des varices à 30 ans.
Alors, c'est intéressant parce qu'à 30 ans, elle se pose la question, mais dans nos consultations, on voit des filles beaucoup plus jeunes.
20 ans entre...
Ah oui, oui, oui. Même, je vais vous dire, c'est la post-puberté où les problèmes apparaissent. Donc, pourquoi? Par rapport à ce qu'on disait auparavant, c'est par rapport aux hormones. Dès qu'il y a des variations hormonales, les veines se sont sensibilisées et peuvent, s'il y a une fragilité familiale, apparaître beaucoup plus facilement. Alors, je dirais sur un point quelque chose d'important. À 30 ans, évidemment, moi, je traite. Mais plus vous traitez tôt, plus le risque d'évolution est minoré. Et puis surtout, plus les résultats esthétiques sont meilleurs. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui vient, qui a des petites veines, qui a une varice mineure à 30 ans ou encore plus jeune, vient se la faire traiter, le résultat va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide à cet âge-là que si on attend 20-30 ans d'évolution où le résultat va être beaucoup plus long et il va falloir plusieurs séances, alors qu'en une, deux séances à 30 ans seront parfaitement efficaces.
D'accord. On a cette autre question, docteur, de Mathieu sur Twitter, qui a un copain qui lui a dit avoir eu une varice sur les testicules. Alors, c'est souvent des copains de copains de copains. Peut-être que c'est lui, mais non, je ne crois pas, parce qu'il demande si c'est possible ou est-ce que son ami s'est fichu de lui. Est-ce qu'on peut avoir des varices au niveau des testicules?
Alors, cette question est passionnante parce que je vais répondre de doublement. Premièrement, l'histoire de la varicocèle, c'est-à-dire la varice dans le testicule, c'est particulier aux hommes. Mais les femmes ont à peu près pareil, ont ce qu'on appelle des varices vulvaires, qui apparaissent souvent pendant la grossesse. Et je pense qu'il y a pas mal de filles doivent nous écouter, qui sont enceintes. Et donc, c'est un moment propice où les veines peuvent se dilater, s'aggraver. Donc, c'est ces varices vulvaires. En général, elles disparaissent à la fin de la grossesse. Mais ce sont des manifestations de varices spécifiques aussi bien chez l'homme et chez la femme.
En tout cas, ce n'est pas que dans
et
les jambes,
aussi,
les varices.
Alors, ouais. Ce n'est pas le sujet de notre jour, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des varices au niveau rectal et anal, qui sont les veines hémorroïdaires, et donc c'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont un problème veineux aussi.
Alors on a une autre question de Nadège, enfin à mon avis elle ne s'appelle pas Nadège, elle s'appelle Mélanie Gomez, sur le 3921 toujours. Notre répondeur, elle demande, lorsqu'on a des varices, ce qui est le cas de son mari, serveur dans un restaurant, si le port de chaussettes de contention peuvent améliorer les choses, voire faire disparaître les varices à la longue.
Alors, disparaître, non, mais par contre soulager la douleur, oui. Et alors, on va expliquer à nos auditeurs à quoi servent les chaussettes de contention. En fait, le gros problème quand on a une insuffisance veineuse, quand on a une fragilité des veines, ça crée ce qu'on appelle une hyperpression dans la jambe, c'est-à-dire au niveau des veines. Et cette hyperpression veineuse entraîne toutes ces manifestations cutanées avec ces marbrues qui peuvent apparaître. Tous les symptômes de fragilité des veines se manifestent à cause de l'hyperpression veineuse. Et la chaussette de contention, il y a 4 degrés de contention. 1, 2, 3, 4. Chaque degré est une pression qui va agir en contre-pression sur la cheville principalement et qui va améliorer le retour veineux et diminuer le retentissement de l'hyperpression veineuse qui, à la longue, peut traîner des problèmes cutanés.
Docteur Toledano, on va en prendre une toute dernière de questions. Oui. On va répondre rapidement à Maria. Elle est à Lyon. Elle s'interroge concernant sa maman qui a plus de 80 ans et pas mal de varices. Est-ce qu'il y a encore des solutions qu'on peut proposer à cet âge-là? Ou de toute façon, si âgée, dit-elle, ça n'apporte plus aucun bénéfice?
Non, à tout âge, on peut traiter.
À 16 comme à 80 alors.
Exactement. Ouais. Après, ce que je vais proposer à 16 ans, je ne vais pas le proposer à 80. L'objectif, c'est à 80 ans, c'est de soulager, d'apaiser, qu'il n'y ait pas de complications. Voilà. Et évidemment, le praticien, son rôle, c'est d'adapter évidemment son traitement en fonction, c'est ce qu'on appelle la singularité du traitement.
Mmh. Alors c'est pour tous les âges.
Et de chaque patient.
Pour beaucoup, on a compris les femmes, mais aussi certains hommes qui vont être intéressés pour se faire traiter les varices. Merci beaucoup docteur Toledano pour tous vos conseils et merci également d'avoir pris soin de répondre aux questions de nos auditeurs. Mélanie, c'est l'heure à présent de passer à notre chronique vite fait, très bien fait.
Et oui Julia, pour cette chronique de fin d'émission qui nous apporte toujours ce petit plus de bien-être pour finir en beauté. Je me tourne vers vous Nathalie Le Breton. La rentrée scolaire est derrière nous, mais certains parents, enfin les pleurs du matin de leurs enfants surtout, continue. Et pour ramener un peu de sérénité dans les foyers, vous allez nous conseiller des livres pour enfants. Est-ce qu'il s'agit de bibliothérapie, Nathalie, c'est ça ?
Ah, vous êtes tendance, ouais. Hein, Mélanie. Oui, la bibliothérapie, on en parle beaucoup parce qu'on a enfin des études nord-américaines qui nous confirment que les livres, c'est excellent pour l'empathie, l'empathie intrafamiliale, pour développer l'empathie chez l'enfant. Alors oui, les livres, ça fait du bien, ça permet de mettre des mots sur des situations. Mais si vous entendez bibliothérapie comme médicament, je dis halte là. Non. Pas du tout.
Il n'y a pas de recette, un miracle, évidemment. Exactement. Nathalie. J'imagine qu'il y a un fort besoin de se rassurer pour les parents, mais aussi pour les parents d'enfants qui ne sont pas allés à la crèche, non ?
Oui, tout à fait. Quand on a gardé son enfant dans le cocon de la famille, ou quand on est allé faire garder son enfant par une assistante maternelle, l'enfant ne s'est pas encore tout à fait socialisé, il n'est même pas allé sur le chemin de... Et oui, les enfants ont besoin de sécurité affective. Alors j'ai un livre pour ça, qui s'appelle « Les petites mains, regardez voilà, comme il est coloré. »
Il le montre à la caméra sur europe1.fr pour ceux qui peuvent le regarder.
Voilà, qui est joyeux, docteur Toledano aussi. Les petites mains, bah oui, c'est celles qui nous protègent, c'est celles de nos parents, c'est celles qui nous permettent de faire l'avion quand on est bébé, celles qui nous donnent à manger. Il va falloir quitter ses petites mains quand on rentre à l'école. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, grandir, c'est ça. C'est lâcher tout doucement la main de papa et maman. Et pourquoi faire ? Faire des choses soi-même. C'est ce que nous dit ce livre. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer à l'école, tu vas jouer du tambour, tu vas manger avec tes doigts et tu vas t'amuser avec tes copains et tu vas donner la main, non plus à tes parents, mais à tes copains. Et ça, c'est l'ouverture vers la vie et ça les aide à se rassurer.
Alors à propos des effets miroirs, on sait aussi que ces inquiétudes des enfants font écho aux inquiétudes des parents. Il nous faut aussi des livres pour nous, les parents, dites-nous.
Je vois qu'il y a du
Moi,
vécu.
Moi, je suis plus stressée que mes enfants. Hein,
voilà, j'aime bien vous sentir un petit peu avouer que oui, vous auriez bien aimé être une petite souris et voir comment ça se passe. Et
finalement, s'ils ont monté le mur de l'école, je ne vois plus rien à l'intérieur.
Et on ne peut plus y rentrer. Alors finalement, est-ce que l'inquiétude, c'est celle des parents, le mal-être ou celui des enfants ou celui des parents ? Maman à l'école, superbe livre.
Ah, je le prends. excellent celui-là.
Et là, c'est excellent. Regardez à l'intérieur et vous allez voir que l'enfant, évidemment, est un peu ravi d'avoir sa maman à l'école. Sauf que quand même, c'est un peu encombrant, une maman. Il lui faut deux chaises pour s'asseoir à la cantine, pour mettre ses deux fesses, par exemple. Et il y a les pieds qui sortent partout. Elle est incapable de faire un collier de perles parce qu'elle a des trop gros doigts. Donc finalement, cette maman devient un peu pénible. On peut le dire, c'est un vrai boulet. Et donc, l'enfant ne rêve que d'une chose.
C'est qu'elle dégage.
C'est qu'elle dégage. Et donc, c'est bien pour se retrouver après. Hein, ce côté rituel, il est important. Mais sans les parents, c'est tellement mieux.
Oh, c'est trop mignon. Alors, l'école maternelle, Nathalie, c'est évidemment la grande inconnue. Nouveau lieu, nouveaux copains, des règles à respecter, même du travail, entre guillemets. Souvent, les enfants font leur premier jour impeccable. Et puis après, ils rentrent, ils nous disent, ça y est, c'est fini l'école.
Eh bien non, mon petit chéri, ma petite chérie, tu vas en prendre pour une bonne vingtaine d'années. Dit la mère et le père, disent les parents un peu sadiques. Non, alors là, j'ai pensé à l'école des poussins. Un livre qui est sorti aux 400 coups. Ce sont nos amis québécois qui ont signé ce livre. Il est extrêmement bien fait parce que, vous savez, quand on rentre à l'école, le rôle des copains, c'est très important. Le mimétisme. Il y en a toujours un qui est un peu balèze, hyper rassurant.
Qui joue les coqs.
Qui joue les coqs et qui va dire « mais non, mais ne pleure pas », etc. Alors nous, en tant que parents, on les regarde, on dit « ah, lui, il est tellement mieux que mon fils », etc. On est un petit peu inquiet. Et le fait de présenter ce livre aux enfants, de l'accompagner le soir, un peu régulièrement, c'est lui rappeler qu'il y a un début et une fin à l'école, qu'il y a un temps à l'école, mais qu'on revient et on retrouve ses parents, bien sûr, à l'école. Et l'idée que il y a des copains qui vont nous accompagner, qui vont nous aider, peut-être à la cantine, peut-être dans la cour de récréation, et que la passation va se faire doucement. Et il ne faut pas s'inquiéter, surtout parce que ce sont les enfants et la socialisation, c'est ça. Les autres qui prennent le relais par rapport au rôle éducatif des parents.
Alors, est-ce que Nathalie, ces attitudes de rentrée, là, qu'on soit un meneur ou un timide, on va dire, préjugent finalement du caractère de notre enfant côté suiveur ou meneur ou pas ?
Ben non, pas du tout. Et justement, c'est ce que j'aime à l'école des poussins, c'est-à-dire qu'on voit là des enfants avec des émotions, des caractères, des tempéraments. Et vous avez des enfants qui vont être leaders au début et puis ils vont devenir suiveurs après. Et des suiveurs, des enfants qui sont hyper observateurs, qui eux vont prendre la main, tout simplement parce qu'ils ont besoin de temps, parce qu'ils sont observateurs en fonction du contexte chez eux. Donc surtout, ne pas mettre d'étiquette et les choses vont s'apaiser dans le temps avec ces livres qui doivent être sur les chevet des enfants et revenir, et il faut les faire choisir finalement le livre qui leur parle en ce moment.
Bon, Mélanie, je crois que vous avez une belle sélection de livres qui vous attend. Merci beaucoup. Nathalie Le Breton, on vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. On sera évidemment de retour avec Mélanie Gomez lundi dès 11h. Mélanie, quelle sera notre grande question du jour?
Alors Julia, lundi, on va se demander si on peut cuisiner sainement en 2 heures pour toute la semaine. En gros, on va vous expliquer ce qu'est le batch cooking, du fait maison, zéro gâchis et surtout plus de temps pour faire ce qu'il vous plaît.
Et puis il y aura encore de nouveaux sujets tendances, de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.
Alors à lundi, dès 11h sur Europe 1.